mentale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h, sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL 105 au cœur de Montréal.
Bonjour et bienvenue à L'Effet durable, l'émission de la Maison du développement durable sur les ondes de CIBL 105. Je profite de ce beau mardi pour vous souhaiter une belle journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et oui, c'est le 2 avril que ça se passe, donc à toutes ces personnes dans ma vie et dans la vie des auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Une très belle journée de sensibilisation à l'autisme. Et aujourd'hui, à l'émission, de belles entrevues, de beaux segments sur différents sujets. En deuxième partie d'émission, je reçois Fanny Eliers, qui est fondatrice de New Way, une firme de consultation en leadership régénératif. Donc, j'ai très hâte de l'entendre sur ce sujet. Je ne connais absolument pas ça. Donc, bien hâte d'en discuter avec elle. Et nous aurons également une entrevue avec Émilie Schwartz, chargée de mobilisation à Vigilance OGM pour l'exposition « Des Rachel qui changent le monde » qui est présentée dans le hall du président Kennedy de l'UQAM jusqu'au 12 avril. Et pour commencer, là, on parle de la situation du caribou qui est vraiment de plus en plus précaire et qui fait couler beaucoup d'encre dans les dernières semaines, mais beaucoup plus que ça. Ça fait longtemps que ça dure. Et pour ce faire, je reçois Henri Jacob et Pascal Bergeron. Bonjour à tous les deux.
Et bonjour. Bonjour.
Merci d'être à l'émission avec nous ce matin pour prendre parole à ce propos. Donc, je vais vous introduire plus officiellement. Henri Jacob, vous êtes un écologiste, activiste. Vous militez depuis plus de 50 ans pour la gestion responsable des forêts, de la protection de leurs écosystèmes en Abitibi. Vous êtes cofondateur du Réseau québécois des groupes écologistes, du regroupement écologiste Val-d'Or et Environ, et aussi de l'Action boréale avec Richard Desjardins, entre autres. Vous êtes également l'auteur du livre « Chronique d'un écocide, l'effacement des caribous de Val-d'Or », paru aux éditions L'Esprit libre en 2022. Excellent livre, d'ailleurs. Donc, voilà pour votre introduction à vous. Ça fait un beau pédigree, comme j'aime le dire. Et Pascal Bergeron, vous êtes porte-parole pour Environnement Vert Plus. Vous militez aussi activement dans le dossier qui entoure le caribou forestier. Là, je vais vous lancer les questions à tous les deux, puis je vous laisse le loisir de répondre en fonction de vos champs de connaissances, d'expertise, puis de ce que vous avez expérimenté aussi dans ce domaine-là. Est-ce que vous pouvez dresser une brève historique des dernières années, des derniers mois concernant le caribou forestier plus spécifiquement?
Ben, si vous voulez que je commence, moi, c'est Henri. En fait, l'histoire, naturellement, qui a commencé il y a plusieurs années, mais dans les dernières années, surtout depuis que ce gouvernement en place, le gouvernement de la CAQ, avec les ministres qu'on a, ont une volonté assez prononcée de rien faire pour sauver le caribou. Au contraire, toutes les politiques qui sont en place vont à l'encontre de la survie de l'espèce. En résumé, c'est que si le caribou est très, très menacé, bien, c'est en grande partie par la non-action du gouvernement qui est en place durant les 6 dernières années. Là. C'est pas les seuls, parce qu'il y a eu d'autres qui ont fait un peu le même trajet avant, ou la même analyse au gouvernement, mais celui-là, il est particulièrement acharné pour ne rien faire.
Donc là, vous êtes en train de dire que dans toutes les étapes qui ont été parcourues jusqu'à présent, il n'y a même pas comme un double discours, parce qu'ils disent quand même, oui, on va faire un plan, oui, on va faire un plan justement d'adaptation ou de protection du caribou, mais qui ne semble jamais arriver finalement.
Juste rapidement, juste dans le cas de Val-d'Or, l'ancien ministre Dufour, qui était aussi notre député, quand il était élu en 2018, m'a demandé, une semaine après avoir été élu ministre responsable de la faune et des forêts, m'a demandé, avec deux des spécialistes avec qui on travaille, de lui produire un plan pour le rétablissement de la Halle de Val-d'Or. Il nous a dit que c'était sa première promesse et son premier chose qu'il ferait. On s'est acharné à travailler durant très, très rapidement pour lui produire en deux mois un plan de rétablissement de la Halle. Et avec les appuis d'à peu près tout le monde, dont les communautés autochtones, les gens de la faune et même des hommes d'affaires ici de la région. Et à ce jour, on attend toujours un accusé de réception. De fait, à partir de ce moment-là, c'est des rencontres, des études, une méta-analyse de toutes les données qui existaient, même une commission indépendante qui nous a dit. Et toutes ces étapes-là nous ont toutes émis les mêmes recommandations à la fin qu'il fallait, si on voulait faire de quoi, c'était pas juste des études, il fallait faire de quoi. Et on connaissait la cause de la disparition des caribous, c'est qu'on détruit son habitat carrément pour récolter la matière ligneuse, donc répondre aux besoins des usines forestières.
Oui, et on reviendra un petit peu plus loin à cette question-là, Henri Jacob. Et de votre côté, Pascal Bergeron, qu'est-ce que vous voyez là, dans les étapes qui ont été parcourues jusqu'à présent dans l'historique?
L'historique de la disparition, l'histoire de la disparition du caribou au Québec, c'est l'histoire de la destruction de son habitat. Puis, il y a un travail phénoménal qui a été fait par l'Action boréale depuis des décennies pour nous montrer c'est quoi le problème de ce côté-là, mais la situation ne se corrige pas. Puis là, maintenant, on est pris pour prendre des mesures de sauvegarde parce que l'habitat qui est nécessaire à la survie des hardes qui sont immédiatement menacées. On parle de la Gaspésie, il reste une trentaine de bêtes peut-être. On n'a pas le dernier inventaire. Le ministère refuse de nous le donner encore, mais ça pourrait être passé en dessous. Fait que Charlevoix, il n'y en a plus beaucoup non plus. Au Saguenay, Pipmoacan, Péribonka, puis en Abitibi, mais ces hardes-là sont menacées de disparition parce que on savait qu'il y avait un habitat préservé. Hein. Ça prend 65% de l'aire de répartition. De l'aire de répartition qui est sauvegardée, qui est à l'état naturel, des vieilles forêts anciennes de 80 ans et plus, qui sont productrices de lichens et d'abris contre les prédateurs. Et on est largement, largement en bas de 65% en ce moment. Et c'est pour ça qu'on met on est passé avec des solutions de patchage comme des enclos pour permanents dans le cas de Val-d'Or, des enclos de maternité dans le cas de la Gaspésie, pour empêcher les prédateurs d'atteindre les fins, là. Mm-hmm. C'est là qu'on est rendu. Le plan de sauvetage, il n'est pas arrivé parce que nos gouvernements voulaient, parce que là, on en parle en ce moment, là, d'une stratégie caribou au Québec. Il est arrivé parce qu'il y a eu une menace de décret, parce que l'espèce est en train de s'éteindre.
Oui.
C'est ça qui s'est passé. Le gouvernement s'est tordu le bras parce qu'on est, on est dépassé de loin la limite, là.
Ben oui, définitivement. Puis c'est assez décourageant et impressionnant de voir à quel point on dirait qu'il n'y a pas de temps d'arrêt, on dirait qu'il n'y a pas de moment où est-ce que le gouvernement va dire, ben là, c'est assez, il faut arrêter quelque part ou il faut mettre de vraies mesures en place. On dirait que c'est toujours un peu flou, tu sais, même en termes de classement de l'espèce. L'espèce a été déclarée comme étant menacée en 2003 au Canada, mais au Québec, je crois qu'elle a encore le statut de vulnérable uniquement et depuis 2005. Je ne sais pas si ce statut-là a changé, puis je sais que ça, c'est juste sur papier. Ça n'enlève rien à ce qui est fait présentement et ça ne fait pas plus que le gouvernement se met en action, mais le statut de l'espèce demeure quand même important pour les actions qui peuvent être prises en ce sens-là.
Exactement. Et le ministère responsable, présentement, c'est le ministère de l'Environnement, refuse de le mettre sur la liste des espèces menacées. D'ailleurs, quand il y a eu le COP 15 à Montréal, il y a un an et demi, le ministre a dit « Je remets à jour ma liste des espèces menacées » et a refusé d'inclure le caribou forestier. Toutes les hardes. Puis ce que je peux juste rajouter sur ce que Pascal a dit, la dernière étude scientifique qui a été faite sur les hardes menacées au Canada, sur 13 qu'on connaissait au Québec, 11 sont considérés comme en danger de disparition. Donc, pas juste en plus celles du Sud qui sont extrêmement en danger de disparaître, mais même ceux un peu plus au Nord sont aussi la très vaste majorité, 11 sur 13, sont menacés.
Oui.
C'est carrément un problème politique. Il faut reconnaître que c'est pas un problème de je dirais, accidentel, d'une mauvaise gestion par méconnaissance. C'est un problème politique et le gouvernement n'a pas l'intention. Même le ministre de l'Environnement, qui est responsable de sa protection, continue de dire, ben, il faut pas oublier que la forêt génère des emplois. Il faut pas oublier. On comprend tout ça. Mais la question, c'est que son rôle à lui, quand il y a une espèce qui est menacée de disparition, c'est de tout mettre en place pour essayer de renverser la situation, ce qu'il refuse de faire systématiquement.
Et là, vous l'avez dit, Pascal, on ne peut pas dénombrer officiellement à ce jour le nombre de caribous forestiers qui demeurent. Je sais qu'il y a différents types de caribous aussi qui existent au Québec. Pas que le caribou forestier. Est-ce que les autres espèces de caribous sont également menacées? Les autres types de caribous?
À court terme, Henri soulignait qu'il y a 11 arbres sur 13 qui sont menacés d'extinction. Le caribou de la Gaspésie, c'est un caribou montagnard, comme le caribou des montants de Gat. C'est les deux places au Québec où on retrouve l'écotype montagnard. Après ça, forestier, il y a plusieurs arbres qui sont menacés. Le caribou migrateur avec tout l'aménagement du territoire qu'on fait avec le développement minier, avec le développement hydroélectrique, il y a également des menaces de ce côté-là. Il y a des menaces naturelles aussi. Le caribou de la rivière Georges, là, il y a eu un pic de population, puis la croissance de la population de loups a fait en sorte, puis la raréfaction de la nourriture a fait en sorte que là, le caribou est en déclin. Le loup est en déclin, mais le loup, il suit derrière. Fait qu'il y a une surprédation de ce côté-là. Puis ça, c'est des phénomènes naturels auxquels on peut pas grand-chose. Mais là où nous, on peut agir, on fait pas très bien non plus. Puis c'est le Québec, c'est l'Ontario. Puis ça a été dénoncé dans une étude australienne là, qui a fait un inventaire de nos arbres puis qui a regardé le modèle forestier puis qui... Pour qu'il soit clair là, que c'est ce qui est dans le top des causes de la disparition. Mais c'est planétaire aussi.
Mm-hmm.
Partout au Canada, les caribous sont en déclin, menacés de disparition. Puis dans le nord de l'Europe puis de l'Asie aussi, là, parce que c'est une espèce circumpolaire. Toutes les sous-espèces sont menacées à moyenne échéance. Puis c'est toute la même cause partout. C'est la surexploitation forestière. C'est la colonisation du territoire, c'est l'appétit insatiable de l'humain pour les ressources qui dépassent les capacités de support des écosystèmes.
Effectivement, et je lisais dans votre livre, Henri Jacob, que le nombre nécessaire pour reconnaître les droits territoriaux des caribous est fixé à 50. Est-ce que ça veut dire que depuis les dernières années, ces hardes de caribous ont perdu leurs droits territoriaux? Comment ça fonctionne? Comment on peut dire qu'ils n'ont plus ce droit? Il y a quand même une particularité, je trouve, dans cette réglementation.
Bien, en fait, dans les années 1980, il y a un document qui est sorti du ministère responsable des forêts, c'est normes d'intervention en milieu forestier. Et c'est dans ce document-là qu'on a découvert qu'il y avait un petit paragraphe qui incluait le caribou et qui disait que le gouvernement avait à tenir compte de l'espèce à la condition qu'il y ait 50 bêtes dans la harde. Et à cette époque, il y avait uniquement celui-là de Val-d'Or qu'on disait qu'il y en avait moins, malgré qu'il était reconnu dans les années précédentes, entre 60 à 80, dans les années, on parlait qu'il y avait 60 à 80 bêtes, mais comme on n'arrivait pas à calculer exactement plus de 50, on n'a pas tenu compte du dossier de Val-d'Or parce que lui avait un territoire qui lui était réservé, une entente entre deux ministères, celui des forêts et de la faune, un territoire de 1200 km². Et en 1984, le ministère responsable des forêts a dit « Maintenant, on va rentrer dans ce territoire-là, on va juste faire une petite récolte. » Et c'est là qu'on a vu cette norme-là qui justifiait leur possibilité de pouvoir intervenir et récolter la forêt parce qu'ils disaient on n'arrive pas à être sûr qu'il y a 50 bêtes. C'est un peu comme dire à un moment donné, il y a un enfant qui est assez malade, ben on dit ben lui, ben on va le sacrifier parce que ça coûtait trop cher ou tenir compte, il nous coûterait trop cher. C'est un peu la mentalité de ce gouvernement-là, c'est un gouvernement affairiste. Celui-là et le gouvernement libéral est pareil aussi. C'est des gouvernements affairistes qui ils ne tiennent compte uniquement du court terme et donc ils regardent les votes qu'ils pourraient perdre. Si, exemple, on protégeait le caribou de la Gaspésie, bien, peut-être ça ferait perdre quelques jobs à des gens en forêt. Mais c'est une vision à très, très court terme et c'est pour ça que le caribou, comme il vit dans des forêts centenaires et plus, ben naturellement, si on ne tient pas compte de la longévité de son habitat, ben naturellement, il décline parce qu'on détruit son habitat pour vivre et sa nourriture.
Oui, oui, mais c'est ça, comme le disait Pascal aussi tout à l'heure. Donc, c'est non seulement la nourriture qui est moins accessible parce qu'on détruit les vieilles forêts, de par son alimentation, il a besoin de cet espace-là, cet écosystème-là. Et à plusieurs moments aussi, c'est mentionné non seulement dans votre livre, Henri Jacob, mais dans les articles qu'on peut lire dans les journaux, par exemple, que le caribou est aussi un indicateur de la santé de son écosystème et du milieu dans lequel il vit parce qu'il est en quelque sorte responsable. En tout cas, il est comme au-dessus d'une panoplie d'autres espèces qui dépendent du même écosystème. Donc, si lui ne va plus, le reste ne va plus non plus. Oui, allez-y, je vous écoute.
Oui, c'est exactement ça. C'est à ça que je voulais rajouter aussi. C'est que c'est pas juste le caribou est juste le symbole de ce qu'on peut voir. C'est la figure dominante de cet écosystème-là. Ce qu'on voit sur à l'arrière de notre 30 sous, là. Mais si lui, quand on tout le au niveau forestier, quand on fait de l'exploitation, si cette espèce-là dans les vieilles forêts diminue, c'est qu'on dépasse la possibilité de récolte dans ce territoire-là. Et quand lui disparaît, ben naturellement, il y a des espèces d'oiseaux, il y a la marthe, il y a le pékin, il y a plein d'autres espèces qui dépendent du même écosystème. Je parle plus du caribou comme le symbole, mais il faut considérer que c'est les forêts anciennes qui disparaissent, les vieilles forêts qui ont plus de 100 ans. Il en reste très, très peu au Québec, du moins dans la partie sud qui est exploitable de la forêt, de vieux peuplements suffisamment grands pour assurer une survie, justement, pour le caribou et pour toutes les autres espèces qui y sont associées.
Oui, et ça permet...
C'est ce qu'on appelle, d'un point de vue technique, une espèce parapluie.
Oui.
Donc, si elle disparaît, tout ce qui n'est pas visible... qui est plus petit, qui dépend de cet habitat-là, disparaît aussi. Puis nous, en Gaspésie, on a deux espèces d'oiseaux qui occupent le même territoire que le caribou. Il y a le garrot d'Islande, qui est une sorte de canard, il n'en reste pas beaucoup. Puis la grive de Bicknell, qui, elle, vit dans les hauts sommets des Chic-Chocs, dans les sapinières. Puis ces deux espèces-là sont en déclin. La grive de Bicknell est officiellement menacée dans les Chic-Chocs, mais on continue quand même à couper les sapinières ancestrales qui lui servent d'habitat quand il y a de la tordeuse qui passe, même s'il y a de la régénération, même si la grive est encore là.
Oui, et puis ça ramène aussi au principe que la reforestation n'est pas la solution, parce que, OK, des arbres tout neufs, tout jeunes, mais ça ne remplace pas tout ce qui est créé à travers une forêt qui est multicentenaire. C'est ça, il y a comme une espèce de décalage entre la perception même des citoyens, citoyennes, du grand public qui se dit « Ah, mais c'est correct parce qu'ils vont en planter ailleurs » ou « C'est correct parce qu'ils vont réhabiliter certains habitats à d'autres endroits », mais ça ne demeure, ça reste que ça ne règle pas le problème puis ça empêche, on peut pas régénérer des forêts.
On parle de reforestation, mais on reforeste même pas avec les espèces qu'on prend.
En plus.
Si je parlais tantôt des sapinières en altitude qu'on coupe au sommet des Chic-Chocs, qu'on a coupé ces dernières années sous prétexte de tordeuses de bourgeons de l'épinette, mais ces sapinières-là étaient en régénération, il y avait encore la grive-là, il y avait une possibilité. La régénération nécessite que les vieux arbres restent debout parce que les vents sont tellement violents, le climat est tellement rigoureux l'hiver que un coup que c'est coupé, ça repousse plus. Mais non seulement on va couper là, mais après, ce qu'on replante, c'est de l'épinette noire, parce que c'est ça que l'industrie privilégie.
Oui.
Alors qu'on sait que l'épinette noire, ben c'est une espèce qui est vouée à prendre en feu avec la détérioration puis le réchauffement du climat qu'on vit en ce moment. Là. L'épinette noire en Gaspésie, dans 50 ans, là, il n'y en aura plus ou presque plus. Là.
Non, c'est ça. Puis dans le plan gouvernemental, ou en tout cas dans les mesures qui sont implantées présentement, la globalité n'est pas prise en considération et les choix sont bien souvent très questionnables dans leur impact global. Pascal, qu'est-ce que vous pensez, vous, du plan gouvernemental qui est mis en place en ce moment pour je mets des guillemets dans les airs, en radio, pour tenter de repeupler la harde de caribou. Il y a comme différents systèmes qui ont été mis en place, dont les enclos. Et bref, j'aimerais vous entendre là-dessus.
Bien, je peux parler de ce qui se passe en Gaspésie. Oui. Là, c'est des enclos de maternité où on capture des femelles officiellement gestantes pour aider à protéger les femmes de la prédation. Là, ce qu'on a vu l'année dernière, sur 6 femelles capturées, il y en avait seulement 2 qui étaient gravides. Puis on a essayé d'avoir des réponses du ministère de l'Environnement, puis je viens juste d'avoir des documents d'accès à l'information où ce qu'on lit, c'est que à l'échographie, quand on les a capturés, les 4 qui avaient pas, qui n'ont pas donné naissance, ben, il n'y avait déjà rien. Puis ça, c'est super problématique parce que une femelle caribou, c'est pas supposé pas porter de fang. Le coût, mettons, pour l'espèce est vraiment pas très grand. Un fang, ça en est vraiment tout petit. Là.
Oui.
Fait que porter un petit pour une femelle caribou, c'est rien ou presque. Là.
Mm-hmm.
Donc, il y a une grosse préoccupation de ce côté-là. Comment ça se fait qu'il y a 4 femelles qui portent pas de fang sur 6 dans ce qu'on capture? Puis ça, on n'a pas de réponse du côté du ministère. Fait que on est préoccupé par cette réalité-là. Après ça, sur les 2 fangs qui sont venus au monde, il y en a 2 qui sont morts.
Fait que, oui.
Le bilan est somme toute négatif, puis le ministère refuse de nous communiquer ce qu'il comprend de pourquoi ça va pas bien, pourquoi il y a eu un échec de ce côté-là. Puis on a perdu une femelle en plus en enclos.
Mmh.
Fait que on a des gros problèmes de communication du côté du ministère pour nous expliquer c'est quoi les problèmes avec leur stratégie, leur manière de la mettre en œuvre. Puis c'est quoi les points forts de ça qui permettraient de sauver le cheptel? Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les mesures qui sont prises ne permettent pas de contrer le déclin. Là.
Non, absolument pas.
Peut-être ajouter, ce qui s'est passé en Gaspésie, c'est passé quelques années précédemment en Val-d'Or, parce qu'on a fait la même chose au début, un enclos de maternité, et le même problème est arrivé. Il y a eu une femelle qui est morte, il y a eu les 2 petits sont morts aussi. Ils ont une méthode qui, naturellement, est très contestée. D'ailleurs, on travaille, nous, avec le spécialiste, c'est Serge Couturier, qui, lui, présentement, je pense qu'il est dans le Grand Nord, justement, à attraper des caribous. Il a développé une méthode sécuritaire dans toutes les places où il est allé. Il n'y a jamais eu de mort quand il est allé. Il n'utilise pas de drogue, parce qu'utiliser de la drogue pour les endormir ou pour les engourdir crée un autre stress qui, souvent, et générateur d'un problème à plus ou moins long terme sur la bête qui souvent en meurt. Ça, c'est une chose. Puis une chose qu'on n'a pas parlé encore, c'est que les vieilles forêts, il faudrait considérer aussi que c'est des grands puits de carbone. C'est reconnu des endroits où ce qu'on devrait conserver, d'après les spécialistes qui étudient le climat, le GIEC et son pendant sur la biodiversité, qui dit qu'il faudrait garder principalement les vieilles forêts parce que ce sont des lieux qui ont accumulé dans le sol durant des centaines d'années. Des tonnes et des tonnes de carbone. Et quand on va les récolter pour faire du madrier, de la planche, bien, tout ce carbone-là qui est dans le sol, naturellement, la chaleur qui réchauffe le sol, ce carbone-là monte dans le ciel. Donc, en même temps qu'on fait disparaître des espèces comme le caribou et son habitat, on est en train aussi de nous détruire les meilleurs moyens pour combattre l'effet de serre.
Mm-hmm.
Puis c'est le même ministère qui est responsable des 2 dossiers du changement climatique et la biodiversité. Et ce gouvernement-là, quand je vous dis que c'est pas accidentel ce qui arrive, là, c'est vraiment, ils ont aucune intention de faire du long terme et de protéger la biodiversité et le changement climatique, on s'en sert pour faire du discours politique.
Oui, il y a un peu de ça, effectivement. Et là, ça m'amène justement à ma dernière question. Là, Henri Jacob, vous avez mentionné des méthodes qui pouvaient être plus adéquates là, en ce qui concerne les caribous et tenter de repeupler et tout ça. On voit avec tout ce que vous dites, puis avec tout ce qu'on peut lire en plus sur ce dossier-là, que les communautés sont ignorées par les gouvernements, les communautés animales et humaines là, sont ignorées par les gouvernements. Qu'est-ce que ça prend? S'il y en a justement des méthodes non invasives ou qui permettent justement d'éviter, d'engourdir, de droguer les femelles, par exemple, pour aller les mettre en enclos, il n'y a comme rien de naturel dans ce processus-là. Il y a d'autres méthodes qui existent, il y a d'autres manières. on entend bien sûr la prévention dans tout ça. Par rapport à la déforestation, il y a plein de mesures là, qui ne sont pas mises en place. On le sait, on est conscient de ça, mais qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il se passe quelque chose?
Bien, en fait, moi, je pense qu'il nous reste juste... La seule solution, c'est que la population doit s'en mêler, parce que c'est pas juste la population de la Gaspésie ou de l'Abitibi qui va subir les conséquences de cette mauvaise gestion-là de nos ressources. C'est tout le monde. En plus de diminuer les possibilités de développement économique, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on tue la vache à lait, que ce soit la vache à lait forestière ou la biodiversité qui nous donne tous les services écologiques du territoire. Ça, c'est une des choses. Puis la seule solution, parce qu'on le voit, nos gouvernements, nos politiciens sont devenus, à mon point de vue, simplement des lobbyistes pour les compagnies. Mmh. Ils ne posent pas la question qu'est-ce que je peux récolter sur le territoire, mais ils disent il faut que je fournisse la demande d'une compagnie forestière ou une compagnie minière, au lieu de dire bon, on a un potentiel X, il ne faut pas le dépasser, ce potentiel-là. Et comme je vous dis, puis l'autre chose, quand on va récolter dans les territoires, dans l'habitat du caribou, une des choses qui est recommandée dans tous les documents que j'ai lus depuis les années 70, c'est qu'il faut rapidement fermer les chemins pour éviter l'entrée de prédateurs. Parce oui. que les prédateurs, ici, c'est prouvé, ils ont mis des colliers aux loups. Les loups se tiennent tout le temps sur les chemins et le caribou, lui, évite les chemins. Mmh. Les chemins tapés par les motoneiges et les skidoux, etc. Et ce gouvernement-là refuse de fermer. Ici, ils nous ont dit on va fermer 60 kilomètres. Imaginez-vous, savez-vous comment ils ont fait pour choisir les 60 kilomètres sur des centaines et des centaines, pour pas dire des milliers de kilomètres? Comment ils ont choisi? Ils ont demandé aux utilisateurs chasseurs, utilisateurs de véhicules tout-terrain, quel chemin que vous utilisez pour? Ils n'ont pas demandé qu'est-ce qui serait idéal pour le caribou, quel bout de chemin qu'on devrait fermer. On est uniquement aux utilisateurs directs sur le terrain, les chasseurs d'ornial et les utilisateurs de VTT et de tous ces bidules-là électriques. Ouais. Fait quand, comme je dis, on pourrait en jaser longtemps, mais quand c'est rendu que c'est au niveau politique, les gouvernements refusent de remplir leur propre mission. C'est dans leur mission, quand tu as une espèce menacée, tu dois tout faire pour éviter que ça... ou du moins tenter de tout faire pour renverser la situation. Et ils ne font rien de ça. Ouais, absolument rien. Puis et ce que je vous dis, vous pouvez n'importe quand, puis je pense que Pascal peut vous dire la même chose.
Oui, ben oui. C'est là qu'on voit qu'il y a une problématique extrêmement grande. Et peut-être en conclusion, justement, Pascal Bergeron.
Bien, si on veut changer ça, là, ça prend des programmes d'élevage de caribous, parce que sinon, ces hardes-là vont s'éteindre. Là. Ils sont pratiquement plus autonomes. Puis. Juste les maternités, la protection des maternités en enclos, ce sera pas suffisant. Ça prend d'urgence la diminution de la capacité industrielle forestière. Puis ça, ben, les gouvernements actuels n'ont pas le courage de la mettre en place. Mais on regarde ce qui s'est passé au Saguenay, sa côte nord, gros feu de forêt, la possibilité forestière va fondre avec les changements climatiques, mais on l'a pas ajusté. Mais pourquoi? Parce qu'on reste avec l'idée que c'est pas une idée, en fait. On va foncer dans le mur. Puis ces industries-là vont faire le maximum de profits, puis quand ils vont fermer, ils vont partir avec les profits, puis ils s'en foutent. Mm-hmm. Mais ça, c'est le modus operandi colonial qui est là depuis qu'on est en Amérique. C'est pas spécifique au gouvernement des dernières décennies d'être à la solde de l'industrie. Ces gouvernements-là ont été mis en place pour ça. Mm-hmm. Puis le changement de paradigme que ça prend, c'est de considérer comme égales les communautés humaines et non humaines.
Et on va continuer à lutter en ce sens-là. Merci beaucoup à tous les deux, Henri Jacob, Pascal Bergeron, d'être venus en discuter avec nous ce matin à l'effet durable. Et on va continuer à suivre ça de près. Et s'il y a quoi que ce soit que la communauté peut faire, les citoyens et citoyennes, on va les interpeller, puis on va travailler là-dessus de concert. Une excellente journée
Merci
à tous les deux.
Merci
d'avoir reçu. Merci. Au revoir.
Bonne journée.
Alors, on s'en va vers une courte pause et on se retrouve tout de suite après pour parler de leadership régénératif.
Salut, mon nom est Sylvain. Je suis un préposé au renseignement, organisé et consciencieux.
Si Sylvain n'a pas mentionné qu'il est paralysé, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Un bail, je peux-tu changer ça? Et cette photo, est-ce que je peux la mettre sur mes réseaux? Puis le casier judiciaire, c'est-tu pour la vie?
Chez Éduquer à loi, on sait que la loi, c'est pas facile à comprendre. Des nuances, il y en a, mais des réponses à tes questions, il y en a beaucoup aussi.
Avec Angle Droit, on vous aide à y voir plus clair. Il est temps d'arrêter de tourner les coins ronds, parce que vos droits sont importants.
On se donne donc rendez-vous tous les mardis de 11h à 11h30 sur CBL 101.5. Parce que savoir, c'est pouvoir.
Décadence. 3 heures de musique, deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence.
Les vendredis soirs, dès minuit, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end.
CIBL, au cœur de la décadence.
CIBL 101.5, Montréal.
Nous sommes de retour à l'effet durable et j'ai le grand bonheur de recevoir Fanny Elias, fondatrice de New Way, firme de consultation en leadership régénératif. Et je la reçois parce qu'aujourd'hui, à la Maison du développement durable, il y a un événement de 18h à 21h, un événement atelier, la pause du développement intérieur. Alors bonjour Fanny.
Bonjour Maude.
Bienvenue à l'émission.
Merci.
Donc, parle-nous de cet atelier. De quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on y fait?
Donc, c'est un atelier qu'on a développé avec un groupe de collaborateurs qui sont dans le monde entier, en Finlande, Angleterre et ici, Montréal et à Paris. Et on a travaillé ensemble justement sur se questionner un peu sur comment on peut revoir les approches et les façons de faire quand on parle de développement durable. On s'est rendu compte que le volet développement intérieur était souvent un peu mis de côté. Et donc, on s'est dit, travaillons un workshop, justement, qui focus là-dessus. On a avancé, c'était super émergent comme processus, des gens fascinants dans le leadership régénératif dans leurs pays respectifs. Et on a eu l'occasion de le donner à la COP28 à Dubaï, qui a été, honnêtement, un peu un choc au début, parce qu'on se dit, mais ça ira jamais cette affaire-là. Je veux dire, c'est sûr que ça passera pas.
Ah non, vous pensiez que les gens seraient pas réceptifs?
Ben non, exact. Okay. Et finalement, ça a été un succès fou. Les gens ont adoré. Les gens nous ont mentionné que c'est les choses qui manquent pour un peu connecter tout ça ensemble. C'est l'approche qui nous manque pour justement faire le lien entre tous ces cette pensée technique, technologique, puis aussi la pensée connexion, régénération. Et donc, ça a été extraordinaire. Donc, ça, c'est un peu la genèse du workshop en tant que tel.
Oui. Et puis, ça s'adresse à qui? Est-ce que c'est ouvert à tout public, tous âges?
Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pour n'importe quel citoyen humain qui pense qu'il y a plus, il y a plus grand, il y a autre chose. Donc, c'est vraiment un truc ultra ouvert à tout le monde. On s'adapte vraiment en fonction des personnes qu'on a.
Et là, tu parles de leadership régénératif. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste?
Mais c'est plus une approche... Alors, c'est une approche de gestion, mais c'est aussi une approche, un mindset. C'est donner plus que prendre. Ce que je me suis rendu compte durant ma carrière, c'est qu'il y a beaucoup de leadership qui est très linéaire, qui est très la manière dont fonctionne notre économie actuelle.
Oui.
La personne juste
c'est
avant.
C'est ça que j'allais dire.
C'est ça.
Donner plus que de prendre. Oui. Il y en a plusieurs qui bénéficieraient d'adapter ça à leur propre vie.
Exact. Et donc, on s'est dit, je me dis que c'est une approche à nourrir à travers toutes nos interactions, autant intérieures que nos interactions avec le système qui nous entoure. Donc, c'est vraiment un leadership qui met en valeur la régénération, le nourrissement de l'être humain, de la personne. Comment on peut travailler sur nous-mêmes pour avoir un impact plus grand et avoir un impact positif sur ce qui nous entoure. Je lisais beaucoup, plusieurs grands penseurs ont dit on essaie de régler un problème de la même manière, avec le même mindset avec lequel on l'a créé au début. Donc, je veux dire, comment on peut arriver à faire différemment si on a toujours le même mindset, la même école de pensée. Donc, c'est un peu ça, le leadership régénératif.
Et puis, à ce moment-là, concrètement, comment ça s'intègre? Est-ce que vous abordez des entreprises? Est-ce que c'est vraiment un milieu entrepreneurial que vous développez ça avec les équipes, les dirigeants? Comment vous faites?
Mais c'est, honnêtement, c'est pas évident. Mais c'est intéressant parce que j'ai comme un sentiment qu'il y a une évolution des... Oh, j'aime pas tellement dire ça, mais en même temps, c'est comme ça que je le sens. Une évolution des consciences. Je pense qu'on est dans une transition assez, assez intense, qu'en ce moment, on le sent, l'anxiété, on sent les enjeux de santé mentale au travail. Et donc, le vieux monde, quand je dis le vieux monde, c'est le monde dans lequel on est, malheureusement, puis la façon dont on fonctionne, il y a une ouverture à inviter de nouvelles approches. Et donc, la manière où je vois qu'il fonctionne, c'est, mais justement, voici un workshop, c'est simple, c'est pas compliqué, c'est 2 heures, venez. Des piotos, vous voyez où ça vous emmène. Puis après, on a des programmes un peu plus consistants qui s'étendent sur 5-6 semaines où on prend vraiment par la main et on décortique un petit peu ce leadership régénératif et comment on peut l'implanter dans une organisation.
Et est-ce que vous arrivez à avoir une certaine pérennité suite à votre passage, par exemple, au sein d'une équipe, d'une entreprise? Comment est-ce que vous arrivez à mesurer, tu sais, l'impact que ça a par la suite, à quel point ça demeure?
C'est super intéressant, la question. Et c'est une question qui me... Ben je la retourne dans ma tête tous les jours, je dirais. Je pense qu'on peut pas mesurer. Genre, c'est des choses qui sont un peu intangibles. Puis ce serait une... De ma part, je pense que ce serait faux de dire « Ah, ben oui, on va le mesurer en... comment dire...
Avec des chiffres, des
statistiques. Oui, avec des chiffres, des statistiques. Je veux dire, c'est comme... Je pense que ça se mesure sur le plus long terme. Donc, c'est difficile, honnêtement, de tangiblement mesurer cet impact-là, honnêtement.
Oui, je suis bien d'accord. Puis, tu sais, souvent, on est beaucoup, justement, dans ces concepts-là, dans la reddition de comptes.
Oui, exact.
Pour donner des chiffres, des statistiques.
Oui.
Mais je me demandais, tu sais, au sein de ces entreprises-là qui ont reçu ce savoir-là ou qui ont eu cette connaissance portée à eux et elles, tu sais, comment ça perdure dans le temps, dans leur pratique, est-ce qu'ils sentent un changement de philosophie, tu sais, c'était un petit peu dans ce sens-là, puis je comprends que c'est des éléments qui sont plus difficiles à mesurer sur le court terme, qu'il faut voir peut-être le plus long terme.
Puis à ton point, je trouve que le volet changer une habitude, changer un rituel, je veux dire, par exemple, on commence une session de travail avec un exercice de respiration. Par exemple, on passe des meetings, on les fait dehors. Je veux dire, c'est toutes des petites choses qui changent. Alors, ça a un impact qui est petit, mais je veux dire, en bowling, ça impacte une équipe de 10 qui vont éventuellement impacter la famille de chacune de ces personnes de cette équipe. Je veux dire, ça peut avoir un effet très humain et qui se disperse. Je sais pas comment tu le dis.
Oui, ben c'est ça qui est comme une espèce de d'onde de choc, mais positive.
Exactement.
Dans ce sens-là. Pourquoi est-ce que c'est important, tu sais, il y a le type de leadership, mais aussi dans le cadre de l'atelier que vous allez donner à la Maison du développement durable, pourquoi c'est important de reconnaître et de parler des émotions qui sont liées à la crise climatique? En contexte professionnel, particulièrement parce que c'est moins abordé, tu sais, tout ce qui est émotif, souvent on le laisse de côté, on n'en parle pas, c'est pas abordé, à part dans des cas vraiment spécifiques. Mais dans la communauté aussi, on n'a pas toujours l'aisance de parler de ces émotions-là avec tout le monde. Mais plus particulièrement en contexte professionnel, pourquoi c'est important d'en parler de ces émotions-là?
C'est que je me rends compte qu'il n'y a plus, il y a comme une barrière qui tombe la vie professionnelle, la vie personnelle. On est tous des êtres humains avec une multitude d'identités. Et donc, c'est difficile pour, mettons, moi, Fanny, de me présenter dans mon milieu de travail avec... OK, je suis un robot aujourd'hui parce que je dois faire ce qui est sur ma to-do list, puis je m'en vais. Je ne pense pas que ce soit... Alors, la bonne approche, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger que ce soit la bonne approche ou pas, mais je pense que embrasser ses identités et justement partager, je veux dire, ses émotions, ses feelings qu'on ressent par rapport à... Ben, c'est tendu, je veux dire, les conflits, la polarisation, la division, je veux dire, ça amène un niveau d'anxiété, je pense, qui est généralisé. Alors, ça se vit différemment à travers nos backgrounds, nos bagages de vie. Mais je pense que d'en parler, ben, ça permet de... Ben, je ne suis pas tout seul, en fait, en bout de ligne, je veux dire. Je suis stressée par rapport à tel truc. Ah, ben tiens, lui aussi, ou elle aussi, ou on a tous un peu la même inquiétude. Puis ça permet, je trouve, de... amener cette espèce de vulnérabilité, puis de voir plus large que juste notre petite personne, puis de pouvoir voir, OK, mais lui, il le vit comme ça, elle le vit comme ça, OK, intéressant, je veux dire, là, on est capable d'avoir un dialogue, puis de co-créer. En étant des robots qui avons un masque permanent, j'ai comme l'impression que c'est difficile d'aller dans cette approche un peu plus co-créative, collaborative.
Oui, puis j'ai aussi cette impression, de par les invités que je reçois, des choses que j'entends autour de moi, mais même par mon vécu, là, tu sais, je peux y aller de manière plus personnelle, ce besoin de travailler différemment, d'être dans un autre type de milieu de travail, de voir le travail comme étant une partie intégrante de nos vies, exact. Et non pas une petite case à côté. Donc, comment tout ça cohabite, je pense que c'est là où ce que vous proposez avec les formateurs puis ton équipe.
Exact.
Là.
Qu'on arrive avec toutes nos identités en tant que, je veux dire, je suis une maman, je suis une fille, je suis une sœur, je suis une amie, je suis aussi une entrepreneur. Et donc, comment tout ça, tout est connecté en bout de ligne.
Donc, donc de reconnecter ces univers-là. Exact. Et dans... l'atelier qui a été développé, ça a été inspiré des Inner Development Goals. Et j'aimerais ça que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est?
Oui. Donc, tu es familière avec les Sustainable Development Goals, objectifs de développement durable. Et c'est super ambitieux. C'est un agenda, je veux dire, qu'on doit atteindre d'ici 2030. On n'est pas du tout en ligne pour y arriver. C'est un peu effrayant. Mais on se rend compte qu'il y a comme un volet... travail intérieur. Souvent, c'est qu'on projette, OK, on va faire ça, on va changer ça, ça va être super, mais à l'intérieur, on est toujours les mêmes personnes avec des traumatismes qui sont personnels à chaque être humain, des choses à améliorer, à soigner, à évoluer. Et souvent, on n'en est même pas conscient. Et donc, ça nous met dans des mécanismes de pilote automatique, on fonctionne comme ça, on ne se remet pas en question. Et je pense que le volet Inner Development Goals a comme... Et je m'en inspire parce que je trouve que c'est un peu amener cette espèce de notion de travailler sur nous-mêmes, en même temps de travailler sur l'impact qu'on veut avoir. Et c'est un peu un jeu à deux. C'est du zoom in, zoom out. Zoom in sur toi, zoom in sur le système. Donc, les IDG, c'est 5 dimensions avec 23 aptitudes à développer pour justement être capable de, comme être humain, how do I heal myself to heal the world around me?
Comment donc j'arrive à me guérir pour guérir le monde autour de moi?
Désolée de l'anglicisme.
Non, mais c'est bon, je préférais en faire la traduction simultanée.
Merci.
Et donc, comment ça s'intègre, ça, justement, dans l'atelier? Parce que, bon, comme tu le dis, c'est un gros programme, là aussi, les Inner Development Goals. Comment vous vous en inspirez? Quels éléments vous avez choisi de garder pour les ateliers en particulier?
Bien, c'est un peu, je dirais, c'est très... l'aptitude principale et la dimension principale que j'amène à travers l'atelier d'aujourd'hui, entre autres, c'est le volet être. On est dans une société qui nous permet de... où on a et on fait.
Oui.
Mais on n'est pas vraiment beaucoup. Et donc, justement, focusser sur l'être, être présent aujourd'hui dans le moment, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui émerge, c'est vraiment une grande partie de la session. Et aussi le volet écoute. Quand on est présent, mais on a une écoute qui est beaucoup plus développée et on est capable de vraiment s'écouter. Pas s'écouter à un niveau superficiel, vraiment aller plus en profondeur, qui nous permet de co-créer. Donc, c'est ça que je mets en valeur sur l'atelier d'aujourd'hui.
Mais c'est bien inspirant. Donc, je le répète, l'atelier a lieu ce soir à la Maison du développement durable de 18h à 21h. Il est encore possible de s'inscrire. Donc, à la pause du développement durable, du développement intérieur, pardon, à la Maison du développement durable, mais tout est lié, voilà. Donc, au www.lamdd.org pour s'inscrire. Un grand merci, Fanny Elliard, d'être venue nous en parler ce matin.
Merci.
Au grand plaisir de se revoir.
Au revoir.
Et pour poursuivre, j'ai eu la chance la semaine dernière de rencontrer Émilie Schwartz, qui était de passage à Montréal pour l'exposition des Rachel qui change le monde. On écoute ça tout de suite. Je me trouve maintenant en présence d'Émilie Schwartz, chargée de mobilisation à Vigilance OGM. Bonjour.
Salut Maud.
Ça va bien?
Oui, ça va super bien, toi.
Excellent. Oui, ça va bien. Merci. On s'était déjà parlé par le passé concernant des Rachel qui changent le monde. Et là, d'emblée, j'aimerais ça que tu nous expliques en bref, c'est quoi Vigilance OGM pour celles et ceux qui connaissent pas?
Oui, Vigilance OGM, c'est un organisme qui a plus d'une dizaine d'années maintenant. On est un OSBL, un OSBL. On est une petite équipe de trois, mais on a un CA. On travaille beaucoup avec que ce soit des scientifiques, des agronomes, des agriculteurs. Puis on est le seul groupe au Québec qui travaille sur la question des OGM et de leurs pesticides associés. Mmh. Donc on a plusieurs missions comme informer, sensibiliser la population sur toutes ces questions-là d'OGM, pesticides. On assure aussi une veille sur ce qui se passe en politique par rapport à ces dossiers-là. On s'assure de mobiliser la population pour que leur voix soit entendue par les instances politiques, pour que les réglementations qui passent soient le plus possible cohérentes avec notre santé et l'environnement. Puis on essaye de soutenir les agriculteurs et les agricultrices face aux multinationales de l'agrochimie. Donc c'est un gros mandat, puis on a plusieurs campagnes à travers tout ça.
Et oui, juste à trois personnes, je trouve ça fabuleux. Vos campagnes déjà sont extrêmement pertinentes et l'impact aussi est quand même notable. Même si quand on travaille dans ce milieu-là, on a l'impression que ça avance extrêmement lentement et parfois c'est vrai que c'est le cas. J'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller voir sur le site de Vigilance OGM, suivre sur les réseaux sociaux aussi parce que...
Exactement, puis on embauche aussi.
Oui,
on
c'est vrai.
En ce moment, on est une offre d'emploi, alors j'en profite pour le mentionner. C'est un peu relations membres, communication, puis un peu administration. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, voilà.
Oui, d'aller voir ça, absolument. Et là, donc, avec l'équipe de Vigilance OGM, vous avez récemment lancé l'exposition qui est basée sur le balado du même nom que je nommais tout à l'heure, des Rachel qui change le monde, que j'ai vraiment adoré. Je le répète, je sais que je te l'avais déjà dit à l'époque quand on en avait parlé. Donc, tu étais déjà venue parler du balado à l'émission. Est-ce que tu peux nous rappeler le contenu et l'origine du balado?
Oui. Dans le fond, on a commencé ce balado-là en 2022. C'était à l'occasion des 60 ans, l'anniversaire du livre « Printemps silencieux » écrit par la biologiste américaine Rachel Carson. À l'époque, elle a écrit ce livre-là pour dénoncer l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. Et c'est vraiment le premier livre sur ce sujet-là. Ça a vraiment agi comme une bombe. Et elle s'est vraiment basée, Rachel Carson, sur des études vraiment... fondée et l'industrie s'est sentie attaquée. Donc, ils ont essayé de décrédibiliser Rachel Carson et en fait, elle a été tellement baquée avec ce qu'elle avait produit qu'ils l'ont attaquée sur elle parce que le fait qu'elle était une femme, ils l'accusaient de sensiblerie féminine. Donc, ça a été assez dur pour Rachel Carson, mais elle ne s'est pas laissée faire. Puis, elle a reçu beaucoup le soutien de la population et ça en est venu quelques années après à l'interdiction du DDT qui était un pesticide très, très, très utilisé à l'époque aux États-Unis. Donc, ça a vraiment été une femme très influente à son époque. Donc, j'ai lu ce livre-là et on voulait souligner les 60 ans de ce livre-là. Puis, on s'est posé la question, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Donc, on a voulu aller rencontrer 10 femmes en sciences qui ont travaillé sur ce sujet. Alors, c'est ça que j'ai fait. L'été 2022, j'ai parcouru le Québec. J'ai rencontré des biologistes, des écologues... une juriste, une politologue, une femme politique, la préfète du Témiscamingue par exemple, des spécialistes en écotoxicologie. Donc vraiment, on a essayé de comprendre le sujet comme un sort de gros puzzle, comprendre chaque pièce pour comprendre cet enjeu qui peut paraître complexe et on a essayé de se le réapproprier et des Rachel qui changent le monde parce qu'on est persuadé que chacun peut contribuer là-dedans.
Oui, puis un aspect intéressant aussi qui est d'aborder dans chacune des capsules, dans chacun des épisodes de Balado, c'est en tant que femme scientifique, hein, le rapport au milieu vraiment. Scientifique en tant que femme, au milieu environnemental aussi. Tu poses la question à chacune des intervenantes, puis les réponses sont parfois surprenantes. Et
oui, je pensais pas qu'il y avait encore autant d'enjeux à être une femme en science. Alors, je pense que c'est vraiment pertinent d'avoir aussi ce contenu-là. Oui.
Oui, absolument. Et là, à quoi ça ressemble, une exposition de balado? Comment ça se traduit?
En fait, on s'est dit qu'on voulait faire une exposition parce qu'on avait des super belles illustrations réalisées par Pauline Steve. Et un balado, il n'y a pas tout le monde qui connaît ça. On dit que c'est accessible sur toutes les plateformes d'écoute, mais on a beaucoup de gens qui nous suivent qui sont peut-être des fois plus âgés ou quoi. Donc, on s'est dit, une exposition, ça va être... vraiment le moyen parfait pour aller rencontrer les gens. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a distillé, j'utilise ce terme-là, chacun des contenus des épisodes. Donc, chaque femme a un épisode. Puis, on a réalisé, dans le fond, un grand panneau avec le portrait de chacune des femmes, avec un peu du texte, etc. Puis, on a essayé de rendre ça accessible à tous. Donc, quelqu'un qui va voir l'exposition, il peut ne rien connaître sur les pesticides. Puis, c'est sûr qu'il va repartir avec beaucoup d'informations et des liens pour écouter le balado aussi.
Et où est-ce
est-ce que ça se fait, cette exposition-là, pour l'instant? Là, c'est la première fois que vous l'exposez.
Exactement. Dans le fond, on a eu le lancement le 18 mars dernier à l'UQAM, dans le hall du président Kennedy. Donc, c'est plus le pavillon des sciences. Donc, c'est dans ce hall-là jusqu'au 12 avril prochain. Et ensuite, on est en train d'un peu de construire la suite de la tournée. C'est certain que l'exposition va être à Québec, on espère, fin mai. Peut-être pour une partie de l'été, ça va aller à Baie-Comeau, parce que moi, je vis là-bas. Oui. Mais tu sais, on a déjà des contacts avec Grimbé, plus dans le coin de Gatineau. Donc, le but, c'est vraiment que l'exposition, après le balado, que c'est moi qui me suis déplacée un peu de partout, que ce soit l'expo qui aille à la rencontre des gens. Puis aussi, ça peut, le sujet des pesticides, ça peut paraître des fois un peu dur de se l'approprier. Oui. C'est un sujet complexe. Mais le but aussi avec l'expo, c'est de montrer que tout le monde peut agir. Donc, on donne des idées de mobilisation pour les gens et qui repartent en se disant « Ok, je sais qu'est-ce que je peux commencer à faire chez moi. »
Oui, qui peut se l'approprier. Puis en même temps, ça donne un second souffle au balado qui, vous l'avez terminé, donc c'est en 2022.
C'est ça, dans le fond, on a eu des épisodes un peu l'année passée aussi. Oui. Et là, dans le fond, les 10 épisodes, donc les rencontres avec les femmes, sont sortis. Mmh. Et donc là, le bilan, l'épisode bilan devrait sortir sous peu. C'est long de faire un bilan avec autant de contenu. Là, c'est entre une demi-heure et une heure chaque épisode. Donc c'est déjà des. Il y a tellement de pépites dans ce que les femmes partagent. Mais ça s'en vient là, sûrement avant l'été, l'épisode bilan devrait sortir.
Mmh. Et pourquoi avoir choisi cette forme? Tu en as parlé un petit peu quand même de l'impact de l'exposition en tant que telle et le souhait à travers cette exposition-là. Qu'est-ce qui vous a attiré vers cette forme-là pour voyager avec, justement, avec ce contenu?
Parce que le balado, c'est de quoi qui est audio. Je dis, c'est comme quelque chose qui n'est pas palpable. Donc, moi, j'aime ça, le concret. Puis aussi parce que de plus en plus, je pense qu'en environnement, on parle de pluridisciplinarité. Oui. On parle de l'importance de mélanger les domaines. Puis je pense que le domaine artistique, on serait vraiment gagnant à l'utiliser de plus en plus. Donc, c'est ça. Avec l'exposition, on a voulu lier l'art le côté femme et le côté science et pesticides. Puis aussi parce que ça va être une belle opportunité pour que des gens, des fois, qui n'auraient peut-être pas écouté le balado, ils voient que ça soit, qu'ils soient touchés par l'art, ils vont peut-être aller voir l'exposition, ou par le sujet plus de femmes, ils vont y aller. Puis aussi, le but aussi, c'est de faire peut-être des ateliers ou essayer de réfléchir à une autre forme. T'sais, moi, je trouve que les conférences, c'est intéressant, mais je veux que ça soit interactif avec les gens. T'sais, je veux qu'ils soient participants et participantes des activités. Donc, c'est ça, on réfléchit à une forme pour animer un peu, tu sais, un événement de lancement, mettons, à Grimbé, qu'il y ait l'exposition, mais qu'il y ait aussi l'animation là autour de ça avec les citoyens.
Peut-être des échanges, justement, pour amener les concepts encore plus loin, une appropriation peut-être plus ancrée à travers ça. Et là, tu l'as dit, les prochaines destinations sont encore en train de se dessiner. On espère que ça fera une belle tournée au Québec, tout comme toi, tu as été le faire à l'été 2022 pour bâtir ce balado. Je le rappelle, l'exposition des Rachel qui change le monde dans le hall du président Kennedy de l'UQAM jusqu'au 12 avril 2024. Et là, si je me ramène à Vigilance OGM, j'imagine qu'on va pouvoir avoir des nouvelles de l'expo à même le site web, par exemple, si on veut savoir si ça va venir dans notre ville à nous.
Oui, exactement. Dans le fond, c'est sûr que faut nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Là, on a une page balado, mais c'est sûr qu'on va mettre là où est rendue l'exposition au fur et à mesure. Puis notre but aussi, c'est de faire du lien avec les organismes déjà présents. Donc moi, je suis déjà en contact avec des citoyens engagés dans leur coin. Donc s'il y a du monde qui nous écoute et qui vivent ailleurs qu'à Montréal, de ne pas hésiter là à nous écrire s'ils veulent que l'expo vienne dans leur ville. Et donc, je pense qu'on va essayer de faire beaucoup de communication. Donc les gens devraient être au courant là. Et ça vient chez eux.
Oui, absolument. Et puis, sur le site de Vigilance OGM, il y a également des possibilités de passage à l'action. Tu en parlais tout à l'heure, que dans le cadre de cette exposition-là, on souhaite aussi que les gens repartent avec quelque chose. Dans le cadre du balado aussi, que les gens s'approprient ces problématiques-là pour pouvoir agir dans leur communauté. Vigilance OGM travaille très fort, comme on le disait en début d'entrevue. Et on peut retrouver donc aussi des manières de passer à l'action avec vous, de soutenir en fait les luttes.
Si j'avais un conseil pour les gens qui nous écoutent, on a un manifeste qui s'appelle « Sortir du glyphosate » où dedans, il y a 15 revendications, que ça soit municipale, provinciale ou fédérale. Quand on le signe sur notre site internet, on a l'occasion de cocher infolette et cocher mobiliser. En fait, quand on coche les deux, ça fait qu'on est informé des sujets. Et ça, c'est la première étape là, pour s'engager, c'est de prendre l'information. Et après, nous, ça, une fois qu'on a, dans le fond, que vous nous dites que vous êtes en... OK pour être mobilisé, nous, on va envoyer les appels à l'action. Des fois, il y a des scandales qui sortent, des décisions gouvernementales. Mm-hmm. Donc, nous, on demande aux gens d'envoyer massivement des courriels à leurs députés ou aux ministres ou de contacter les ministères, etc. C'est le genre d'action qu'on vient vous chercher directement. Mais pour ça, faut
être informé.
Oui. Exactement. Donc, vraiment signer... le manifeste Sortir du glyphosate. Mmh. Il y a déjà plus de 160 villes qui ont adopté des réglementations sur les pesticides plus ambitieuses. Et là, on a appris que Gatineau allait interdire le glyphosate. C'est vraiment une grosse, grosse nouvelle. Oui. Mais là-bas, il y a un groupe citoyen très, très engagé. Donc, ça paye, ça marche. Mmh. Les citoyens engagés, Québec aussi, sont avancés. On a une boîte à outils, ma municipalité sans pesticides. Donc, si chez vous, dans votre ville, c'est le cas à Baie-Comeau, on travaille un peu là-dessus, vous n'avez pas encore de réglementation sur les pesticides, ne pas hésiter d'aller voir notre boîte à outils. Donc, sur le site internet, il y a passer à l'action, agir, une section, et là-dedans, on voit un peu ces campagnes-là.
Oui, bon, mais c'est pratique d'avoir des clés en main comme ça pour les citoyens, pour juste l'apporter peut-être au conseil municipal, à leurs élus, pour amener cette conversation-là, effectivement, puis demander l'implantation de réglementations plus sévères.
Ce que je retiens beaucoup de cette quête-là et ces rencontres avec ces femmes, c'est que on a du pouvoir en tant que citoyen. Mmh. Oui, des fois, on a l'impression qu'on se bat contre Goliath, là. L'industrie de l'agrochimie est très puissante. Et il y a un scandale, là, justement, qui est apparu hier, que le nouveau directeur général de l'Ordre des agronomes est un lobbyiste des pesticides.
Oui.
c'est ça. Ça peut paraître énorme, mais il y a de la place au niveau démocratique. Il faut que les citoyens prennent cette place-là. Mmh. Il faut qu'ils aillent aux séances publiques municipales. Il faut qu'ils participent aux consultations quand il y en a. Il faut qu'ils interpellent leurs élus, leurs représentants, que ce soit les députés ou les conseillers municipaux et conseillères municipaux. Mmh. Je dis il faut. Si les gens ont le temps, bien sûr, on est conscient que tout le monde a des enjeux dans la vie. Mais de suivre ce que font les groupes comme Vigilance OGM, nous, on essaie d'être le porte-parole de ces citoyens-là. Donc, des fois, ça permet qu'on fasse un bout du travail pour simplifier l'action des citoyens par la suite.
Mais merci beaucoup pour ce que vous faites pour les citoyens et pour la lutte en général. C'est vraiment précieux, je vais le dire comme ça. Merci, Émilie Schwartz, donc chargée de mobilisation à Vigilance OGM.
Merci, à bientôt.
Donc, la semaine prochaine, j'ai le plaisir de recevoir l'autrice Karine J. Lavoie qui nous parle de la parution de son second roman jeunesse de la série Keira Green, Au secours de la planète bleue, déjà disponible en librairie. Nous aurons également nos chroniqueurs habituels Maïté Belmire, Alexandre Escure et Patrick Rondeau pour de nouveaux sujets d'actualité. Je rappelle que nous sommes en rediffusion tous les lundis 8h. Merci à Geoffrey Pro pour la mise en onde et merci à la Maison du développement durable de rendre cette émission possible. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcast, Balado Québec, ainsi que sur le site de CIBL. Une excellente journée à vous sur nos ondes.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis publics ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
Il y a une maudite.
Tu viens-tu te foncer dans le porte-patio, Gaëtan?
Mais non.
Voyons que je t'ai vu.
C'est mon émission, vous commencez.
Voyons donc, Gaëtan, c'est un annonce, c'est le mercredi... Ben...
Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis à la barre de l'émission Francophile tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique en français, un pied dans le son du moment et l'autre un peu plus nostalgique. À tout de suite.
CIBL 105 Montréal.
Vivre Montréal. Montréal.
Alors, ici c'est CIBL. On entre en onde bientôt dans 5 minutes.
CIBL 105 au cœur de Montréal.